Chapitre 11. Les Allemands vinrent vers 5 heures cet après-midi-là. Ils avaient gravi la première section de pente en taillant des marches, sans crampons 12 pointes et sans les cordes fixes que nous avions remontées. Il leur avait fallu presque 3 heures pour parvenir en bas de l'échelle. Le diacre croyait toujours qu'il l'utiliserait pour monter à toute vitesse, puis prendrait pied sur le col nord en nous canardant avec leurs fusils et leurs armes automatiques. Après nous avoir tous descendus, il brûlerait notre campement, se débarrasserait des cendres et de nos cadavres dans la crevasse la plus proche, puis retournerait dans leur camp invisible au milieu des pinacles de glace sous notre ancien camp 3 avant la nuit, pour leur dîner. Tel était leur plan d'après le diacre. La première partie s'était déroulée comme prévu. 6 d'entre eux avaient taillé des marches le long de la pente, restant hors de portée de notre pistolet à 2 coups. Le diacre n'aurait pas gâché ses 2 cartouches en tirant au hasard, pour se retrouver bientôt en bas de l'échelle. Nous le savions parce que j'avais été dépêché pour creuser des petits trous dans l'arête de neige à environ 20 mètres à l'est de la corniche, et Jean-Claude avait fait la même chose de l'autre côté. De sorte que nous avions maintenant une bonne vue à l'est et à l'ouest. Au moins, personne n'allait nous surprendre en taillant des marches ailleurs sur cette pente de 300 mètres menant au col nord. J.C. siffla, et je vis la tête du diacre encapuchonné de blanc se dresser, derrière une berne de neige au bord du précipice. J.C. leva ses 2 mains gantées, montra 6 doigts, puis mima l'escalade. Ils étaient donc bien en train de monter, tous armés, bien sûr. De notre côté, nous n'avions pas chômé pendant cette journée. Passant Guerreggi, suivant les instructions du diacre, ou du moins le plan qu'ils avaient conçu ensemble ce matin-là, avaient levé le camp et rangé les affaires indispensables dans nos 5 sacs à dos. Puis ils avaient cherché une crevasse plus haut sur le col et y avaient descendu les 5 ballots que nous avions hissés la veille, ainsi que la grande tente Whymper démontée, recouvrant les piquets d'ancrage avec de la neige. Les Allemands pourraient découvrir la cachette s'ils la cherchaient et suivaient nos empreintes sur le col nord, mais ils n'avaient aucune raison de le faire. Nous avions laissé un peu de matériel et 2 tentes mides sur le site du camp 4 exprès, et le col était quadrillé d'empreintes de bottes. Quand j'avais demandé au diacre ce que faisait Passang et Reggie, et pourquoi, il avait seulement dit « Nous aurons besoin de nourriture, de matériel et d'ustensiles de cuisine si nous repassons par ici après avoir trouvé le corps de Percy. » « Si, avais-je pensé avec une certaine consternation. » « Par ici ? Quel autre chemin y avait-il pour redescendre de l'Everest ?» J'avais gardé ces questions pour plus tard. À cet instant, j'enfonçais la tête et le corps dans la neige alors que les 3 fusils volés et ce qui, à l'oreille, ressemblait à un pistolet mitrailleur Schmeisser ouvraient le feu sur nous. Les Allemands ne savaient pas précisément où nous étions, si bien que leurs cartouches s'écrasaient sur le mur de glace ou les bermes de neige tout le long d'un front de 50 mètres de part et d'autre de l'endroit où l'échelle était fixée à la corniche. D'autres balles passèrent en sifflant au-dessus de ma tête. Je trouvais étonnant que personne ne m'ait jamais dit, ou que je n'ai jamais lu, que le bruit des balles filant à proximité ressemblait beaucoup au bourdonnement des abeilles un jour d'été dans un champ de ruches blanches. Me faire tirer dessus pour la première fois de ma vie, même si aucune cartouche ne passait très près de l'endroit où je me dissimulais, suscitait en moi d'étranges et intéressantes réactions physiques. J'avais le désir pressant de me cacher derrière quelque chose ou quelqu'un, voire à l'intérieur de moi-même. Ma première impulsion, que je commençais aussitôt à mettre en pratique, fut de m'enfouir dans la neige du col nord jusqu'à disparaître. Voilà ce qu'on ressent à la guerre, pensais-je. Et c'est ce que fait un lâche en temps de guerre. J'arrêtais de creuser, me forçais à relever légèrement la tête et à observer. J.C., le diacre et moi n'avions pas été inactifs non plus. Sans cesser de surveiller les Allemands en bas, nous avions délégué cette tâche à Passang et Reggie quand ils nous avaient rejoints en fin de matinée, et en restant baissés autant que possible, nous avions roulé les plus gros blocs de glace que nous avions pu trouver juste derrière la berme de neige au-dessus de la corniche où Mallory et les précédentes expéditions avaient planté les tentes de leur camp 4. et où arrivait maintenant notre échelle de corde. La nuit précédente, alors que les nuages emplissaient encore la vallée, le diacre avait pris le temps d'épisser 3 mètres de sa corde miracle à chaque extrémité de l'échelle qu'il avait attachée à de nouveaux piquets plantés près du mur de la corniche. Ça avait été une tâche terriblement difficile pour un homme exténué, même sans considérer l'altitude débilitante. Le diacre avait été seul à soulever et attacher les lourdes charges que nous avions hissées en pédalant sur l'engin de JC. À présent, les Allemands qui montaient à l'échelle utilisaient leurs mains libres pour tirer avec leurs pistolets, surtout des Luger, d'après ce que je voyais par mon œil de bœuf, même si certains avaient des semi-automatiques que je ne parvenais pas à identifier. Ils savaient leur position précaire. Mais avec les tireurs qui les couvraient et leur propre mitraille qui empêchait quiconque d'approcher du haut de l'échelle, ils devaient se sentir en sécurité. Je pensais à des chevaliers du Moyen-Âge grimpant des échelles pour franchir les murailles d'un château assiégé. Certes, le col Nord était notre château fort, mais ces nazis n'avaient rien de chevalier. C'était plutôt des barbares. Jean-Claude utilisait ses mains pour indiquer aux diacres, à Reggie et Passang, tapis derrière la berme juste au-dessus de la corniche et de l'échelle, la progression des Allemands. 1 point et 5 doigts signifiaient 15 mètres. 1 point et 5 doigts. 1 point et 4 doigts. 1 point et 3 doigts. L'échelle de corde mesurait 35 mètres. Il se rapprochait, ouvrant le feu sur chaque mouvement imaginaire. Les tireurs visaient à présent les bermes près du haut de l'échelle. J'ignorais totalement où allaient les pruneaux du Schmeisser, mais leur sifflement quasi permanent me rendait presque malade de peur. J'entendais le fusil d'ancien tireur d'élite du diacre tirer depuis 1 point sur le glacier. J'avoue que j'étais terrifié. Pas assez, cependant, pour ne pas faire ce que j'avais à faire quand le diacre siffla 2 fois. Jean-Claude et moi, toujours accroupis, reculâmes de quelques pas sur le sol, puis nous précipitâmes là où Passang et Reggie attendaient, au milieu des énormes blocs de glace que nous avions roulés jusqu'à la berme en surplomb de la corniche. JC s'arrêta juste avant cette berme pour regarder par le trou de souris qu'il avait percé un peu plus tôt. 1 point levé nous indiqua que les Allemands grimpaient toujours, et 8 doigts qu'ils n'étaient plus qu'à 8 mètres du haut de l'échelle. C'était à moi de jouer, même si je n'étais pas sûr d'en être capable avant de l'avoir fait. Je m'élançai par-dessus la berme et roulai jusqu'à la corniche de glace en dessous, puis rampai aussitôt pour me coller contre la paroi. Des balles percutèrent le mur à 1 ou 2 mètres au-dessus de moi, projetant des éclats de glace coupants sur mon visage. D'autres frappèrent le bord de la corniche devant moi. Mais le diacre avait eu raison. Même le tireur armé du Lee-Enfield à lunettes ne pouvait m'atteindre si je restais baissé. Évidemment, pensais-je, il faudra bien que je quitte cette foutue saillie à un moment. Mais cela aussi était prévu. « Allez !» dit le diacre, se plaçant derrière l'énorme tas formé par le monte-charge avec sa selle et son guidon de vélo, sa poulie, ses supports et son long bras de métal. « Nous n'avons que quelques secondes !» Je hochai la tête, et nous nous adossâmes tous deux au mur de glace derrière nous. Pliant les jambes, nous plantâmes nos crampons à l'endroit déterminé et poussâmes de toutes nos forces. La massive machine glissa sur la glace entre les 2 sillons que nous avions creusés avec nos piolets. Nous avions même versé 4 thermos de notre précieuse neige fondue sur cette rampe pour créer un toboggan. Les 100 kilos de métal glissèrent assez facilement, mon ami se levant pour guider leur trajectoire au risque de se faire tirer dessus, et basculèrent par-dessus bord. Le diacre eut juste le temps de se coucher avant qu'une rafale de balles percute le mur derrière nous et la berme de neige au-dessus. Des hurlements nous parvinrent d'en dessous, dont les échos s'éloignèrent de nous. Les tirs continuèrent, mais moins d'hommes faisaient feu. JC leva 3 doigts. Sa machine bien-aimée avait emporté 3 Allemands avec elle. C'était une sacrée chute du haut de cette échelle. Pas seulement les 30 mètres du mur de glace, mais toute l'étendue de la pente abrupte en dessous. Les cris cessèrent, et soudain le silence me parut presque violent. Mais JC brandit de nouveau 3 doigts, nous signifiant que 3 autres Allemands continuaient de grimper vers nous. À moins qu'il ne batte en retraite, songeai-je. Une pensée qui ressemblait beaucoup à une prière. Puis Jean-Claude brandit le poing de là où il était caché. Les 3 Allemands continuaient de grimper, s'aidant à présent des 2 mains puisque leur tir précédent n'avait servi à rien. « Cheville !» dit le diacre, Je plantais mes crampons aussi profondément que possible dans la glace de la corniche et attrapais fermement les chevilles du diacre. J'avais les mains et les poignets très puissants après des années de varap. Pourtant, ça m'avait paru plus facile quand nous nous étions entraînés sur du plat un peu plus haut sur le col. Tel un acrobate de cirque, le diacre se projeta à plat ventre et glissa sur la rampe de glace lisse que nous avions creusée pour lancer la bicyclette de JC. Malgré mes efforts, je fus entraîné vers l'avant et manquai passer par-dessus bord jusqu'à ce que mes crampons trouvent une accroche plus profonde. Les muscles et les ligaments de mon bras droit se tendirent presque à se déchirer, mais je réussis à arrêter la folle glissade du diacre alors que la partie supérieure de son corps pendait horizontalement au-dessus du vide. Prenant son temps, il pointa son lougueur, attendit encore 2 ou 3 secondes. J'imaginais le visage d'un Allemand aux yeux bleus levé vers lui 6 mètres plus haut, puis tira. Des balles de fusil frappèrent le mur de glace, même si les tireurs craignaient manifestement de toucher un de leurs compagnons encore sur l'échelle, mais le diacre attendit tout de même quelques interminables et terrifiantes secondes supplémentaires avant de tirer sa 2e et dernière cartouche. « Arrière !» cria-t-il, et je le tirai comme un fou par les chevilles, puis j'empoignais les puissants muscles de ses mollets sous leurs chaussettes de laine, ses cuisses et son postérieur, jusqu'à ce qu'il se retrouve à la base du mur avec moi. « Ils sont tombés !» dit-il en haletant. Puis plus fort, « Les boules de neige !» Chaque boule de neige était en fait un bloc de glace pesant au moins 15 kilos. Nous avions eu un mal fou pendant cette longue journée d'attente à les trouver et les rouler jusqu'au dépôt de munitions juste derrière la berme. Au signal, Reggie et Passang firent tomber une boule sur la corniche. Le diacre et moi ralentîmes sa glissade, nous plaçâmes derrière et la lançâmes sur le toboggan. Le dépôt de munitions contenait 12 boules de glace. Nous les balançâmes toutes. Les 270 mètres de pente abrupte sous le bas de l'échelle étaient très propices aux avalanches. Jean-Claude se hâta d'aller regarder dans son œil de bœuf. Le Schmeisser ne tirait plus. Le diacre avait dit que son canon chauffait très vite en position automatique. À présent, seuls quelques tirs sporadiques perturbaient le calme de cette fin d'après-midi himalayenne.
« 4 Allemands de moins ! Un des types a fait un arrêt d'urgence ! Il est retourné vers l'échelle en courant, il a recommencé à grimper !»
nous cria JC.
« Il monte vite ! Il est environ à mi-chemin ! Aux 2/3 !»
Le diacre hocha la tête, attrapa la hache qu'il avait plantée le long du mur de la corniche, compta jusqu'à 10, puis en 2 mouvements vifs et assurés, coupa les 2 cordes qui tenaient l'échelle. Le long cri qui nous parvint d'en bas nous parut très gratifiant. « Maintenant !» dit le diacre, et je courus vers l'extrémité ouest de la corniche, sautai, puis plongeai dans le terrier que nous avions creusé, avant de rouler derrière la berme à l'instant où des tirs retentissaient. Quelques secondes plus tard, le diacre faisait de même par le côté est. Retrouvant JC, Passang et Reggie derrière la haute berme, le diacre et moi fîmes signe que nous n'avions pas été touchés.
« J'ai surveillé, » dit Passang. « 5 hommes, dont celui qui est tombé avec l'échelle, sont morts. Un autre bougeait encore, mais je suis à peu près sûr qu'il s'est cassé la colonne vertébrale. D'autres sont blessés, mais celui qui tenait le Schmeisser et un autre sont sortis des pinacles pour venir les aider à se mettre à couvert.
« S'ils étaient bien 12, comme on l'a vu ce matin, » dit le diacre. « Ils ne sont plus que 5, en comptant Barner, que Reggie a rayé de la quartière. » Et certains des 5 ne doivent plus être en grande forme à l'heure qu'il est.
« Vous croyez qu'ils vont abandonner et s'en aller ?»
demandai-je, mon cœur battant si fort que j'avais du mal à m'entendre parler. Le diacre me regarda comme si j'avais proféré une énormité. Reggie répondit.
« Ils ne renonceront pas, Jake. Ils ignorent si nous avons déjà retrouvé Percy et Meyer et récupéré l'objet de leur convoitise, mais ils ne peuvent pas l'exclure. En cas de nouvel échec, ils ne pourraient pas retourner en Allemagne, ni même en Europe. Leur propre parti les ferait tuer. Leur prétendue fureur, d'après ce que m'a dit Percival, n'est pas le genre d'homme à oublier ou pardonner. Ces alpinistes nazis seront tous en danger de mort s'ils rentrent bredouille.
« Mon Dieu !» murmurai-je. « Qu'est-ce donc que Meyer a refilé à votre cousin, Reggie ? Un viseur de bombardement révolutionnaire ? Un morceau de la vraie croix ?
Je ne sais pas, Jake. Mais je sais que c'est beaucoup plus important pour la faction politique de Bruno Siegel que le serait un viseur de bombardement ou même le Saint Graal.
Les poches reviendront à la charge, dit Jean-Claude.
Ils tenteront de grimper à différents endroits sur la paroi du col Nord. Et ils sont peut-être plus de 5.
Manifestement, ils sont venus en force cette année.
Le tireur d'élite restera en arrière pour couvrir les autres pendant qu'ils tailleront des marches sur la face.
C'est un redoutable fusil avec une redoutable lunette télescopique, Richard.
Le diacre grommela. Je savais qu'il s'en voulait d'avoir laissé les fusils au camp de base avancé.
Vous pensez qu'ils vont revenir bientôt, monsieur Deacon ?
Demanda Passang.
Je ne crois pas, non.
Nous nous passions une bouteille d'oxygène avec son masque que nous avions laissé ici précisément pour ce moment de récupération. Et le diacre prit le temps d'inhaler quelques bouffées d'air anglais avant de poursuivre.
Tailler des marches dans une pente de glace vierge va leur prendre des heures, jusque bien après la tombée de la nuit. Et il leur faudra encore résoudre le problème des 30 derniers mètres de paroi verticale. Je ne suis pas sûr qu'ils le tentent dans le noir.
Les Boches ne savent sans doute pas que Richard n'avait que 2 cartouches dans le Luger de Barner, dit Jean-Claude. Les tirs ont dû les surprendre, non ?
Raison de plus pour qu'ils escaladent la nuit, dis-je.
Je continuais d'alterner bouffées d'air anglais et gorgées d'eau d'une des thermos. Après ma première bataille, aussi modeste qu'elle ait été, je me sentais bizarre. J'ignorais qu'un homme pouvait alors se sentir tout à la fois joyeux, déprimé et vidé. Une réaction cependant dominait.
J'étais sacrément content d'être en vie.
Mais ils devraient attacher des torches électriques autour de leur cou pour les parties difficiles de l'escalade,
dit le diacre. Sa voix était presque aussi rauque que la mienne.
Si je les attendais avec 8 balles dans le chargeur du Luger de Barner, ce serait une mauvaise nouvelle pour 8 d'entre eux.
Vous êtes si bon tireur que ça ?
Demanda Reggie.
Faire mouche 8 fois dans le noir, en vous repérant à de petites lumières vacillantes, en vous penchant au bord du vide par ce froid ?
Oui, répondit le diacre.
Je les vis échanger un étrange sourire. Quelque chose était dit ou admis qui ne m'était pas destiné. Je sentis la morsure de la jalousie et me le reprochai aussitôt.
Donc, on s'en tient au plan qu'on a défini ?
Demanda J.C.
Oui, sauf si quelqu'un a une objection, dit le diacre.
Personne n'en avait. Les sacs à dos et le matériel supplémentaire sont prêts, n'est-ce pas ?
Ils le sont, dit Reggie.
Nous allons donc nous mettre en route tout de suite pour le camp 5. Je levai la main comme un écolier demandant la permission d'aller aux toilettes.
Il ne fait pas encore nuit. L'Allemand qui manie votre Lee Enfield en bas a montré un certain talent.
Est-ce qu'il ne va pas nous descendre un par un quand nous arriverons au champ de neige sur l'arête nord et serons visibles du glacier ?
Le diacre regarda le sommet et les arêtes de l'Everest bloquant le couchant. La bande jaune, les hauts blocs rocheux et l'arête nord étincelaient, tandis que le reste de la montagne et tout le col nord étaient plongés dans l'ombre.
Il fera presque nuit quand nous atteindrons les pentes neigeuses de l'arête nord. Nous ne serons pas encordés. Comme nous en avons discuté ce matin, nous avancerons de manière erratique, à des allures différentes et en zigzag, jusqu'aux cordes fixes. Et sans lumière, même pas nos lampes frontales.
Et quand nous serons sur les cordes fixes, insistai-je, à ce moment-là, on sera bien obligé d'allumer les lampes. Il fera trop noir pour grimper et assurer nos prises de pied sans lumière.
On ne sera plus à portée du tireur sur le glacier ?
Si, à l'extrême limite, dit le diacre. Mais nous n'utiliserons pas nos lampes frontales, même dans les passages abrupts où nous attendent les cordes fixes, Jake.
Nous nous servirons de la lumière des étoiles, de notre mémoire corporelle et des jumards de Jean-Claude.
Formidable, maugréai-je.
Ce sera formidable, mon ami, acquiesça J.C. Si on accepte votre toux incessante, nous avons tous l'air d'aller bien. Nous nous sommes acclimatés, du moins pour cette partie de l'escalade. Et gravir l'Everest à la lumière des étoiles est sûrement l'apogée d'une vie d'alpiniste.
Donc, ça n'en est pas le terme.
Ironisai-je entre 2 quintes de toux. Je vais vous redonner un peu de sirop antitussif,
dit le docteur Passang. Mais pas trop. Il ne faudrait pas que la codéine vous rende somnolent et distrait. Par chance, j'ai aussi une pilule qui vous aidera à rester éveillé. Nous en aurons peut-être tous besoin avant la fin de la nuit, renchérit le diacre.
Nous montons donc jusqu'au camp 5 dans le noir ?
Demandai-je, sentant le poids de la fatigue après une journée à tousser entre deux poussées d'adrénaline.
Non, mon cher Jake, dit Reggie, prenant ma main gantée entre les siennes. Rappelez-vous, nous nous arrêtons au camp 5 pour nous reposer un moment et démonter la grande tente, mais nous grimperons jusqu'au camp 6 avant l'aube.
Le plan me revenait à présent. Bordel de merde, manquais-je dire. Mais parce que nous étions en présence d'une dame et que j'étais un ancien élève de Harvard et un gentleman, et surtout parce que nous étions en 1925, je le gardais pour moi. Nous soutenant les uns les autres, gardant la tête baissée, nous partîmes d'un pas traînant vers le camp 4 où nous attendaient nos charges et une escalade absolument sans précédent.